France Inter.
Franceinter.com.
Bonjour à tous, heureux de vous accueillir dans ce magazine de nature et d'environnement, l'émission qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond et de tousser aussi peut-être en rond avec aujourd'hui à la technique Éric Morin et Jean-Noël Vélan et assisté de Sophie Ledoré et de Jean-Christophe Pinaza. C'est Fanny Beauhuon qui réalise cette émission. Alors ça va être une petite ronde des journalistes en direct sur France Inter dans quelques instants, mais avant évidemment une petite humeur, j'irai une humeur plutôt joyeuse parce que le nouveau jeu à la mode pour les petits et les grands de ce monde en cette période de fête, c'est le Monopoly des terres cultivables, excellent papier de Patrick Pirot la semaine dernière d'ailleurs dans Politis. Alors je vous rappelle les règles, on lance les dés, on avance le pion, on regarde sur quel pays on tombe. Premier venu, premier servi. On achète 1 ou 2 millions d'hectares de terres fertiles et bien irriguées pour quelques poignées de dollars. On cultive le maïs, le soja ou le palmier à la mode intensive. Bah oui, sinon c'est pas rigolo. Et on récolte des millions de tonnes, le tout destiné bien sûr à l'exportation sous les yeux des autochtones qui n'ont plus qu'à ramasser les miettes. Alors, ça vous dit de faire une petite partie? Oui, alors hop, on y va. Je jette les dés. 1, 2, 3, 4, Madagascar. 1 300 000 hectares. Autrement dit, la moitié des terres arables de la Grande Île pour le groupe coréen Daewoo. Et oui, avec à la clé 5 millions de tonnes de maïs par an, parce que bah oui, effectivement, les écrans plats, on s'en doutait, ça vous nourrit pas son âme, bien sûr que non. On continue. 5, 6, 7. La Papouasie. C'est pour l'Arabie Saoudite, qui veut cultiver du riz basmati. Hop, 8 et 9. Les Philippines, gagnant. Autrement dit, le jardin potager de la Chine. 11 et 12. Le Brésil, passez votre tour là. Ah oui, car on a déjà vendu pour 5 millions d'hectares de terres cultivables dans la région. Alors, retour à la case colonialisme, me direz-vous? Mais pas du tout. Lorsque les conquistadors des temps modernes débarquent de l'avion avec leur armée d'avocats et plantent leur drapeau au cœur des terres cultivables d'Amérique, d'Afrique ou d'Océanie, faut se rassurer, tout est fait dans les règles déjà bien rodées par les compagnies minières. Acte de vente, bail emphytéotique dans la grande tradition du droit romain, etc. Et d'ailleurs, la Banque mondiale l'a dit, la propriété privée de la terre est une valeur universelle. Et la Banque mondiale, qui a déjà affamé une partie du monde, quand elle dit ça, c'est qu'elle connaît bien l'affaire. Alors tenez, vous signez là, on vous emprunte vos terres pour 99 ans. Et on vous les valorise à coups d'engrais et de pesticides. Avec nos ouvriers importés d'Afrique du Sud et nos tracteurs, eh ben on les cultive sans souci, vos millions d'hectares de terres fertiles. Avec néanmoins, bon allez, quelques dommages collatéraux du genre déforestation, érosion, désertification, salinisation, stérilisation des sols. Bref, un bilan pas vraiment glorieux pour les apôtres de l'agriculture productiviste qui prêchent la bonne parole sans trop se soucier du lendemain. Bon, de sérieux doutes évidemment sur la santé de notre garde-manger à tous. Cette couche fertile, on le rappelle, d'à peine 30 cm d'épaisseur qui couvre 20% des terres émergées et à qui on demande de nourrir non seulement 7 à 8 milliards d'êtres humains mais également toutes les autres espèces rampantes, volantes, trottinantes qui habitent avec nous. Conclusion, à l'inventaire des terres agricoles menacées, on trouve les 2/3 des surfaces cultivables d'Afrique, 1/3 des sols d'Asie, 1/5 de ceux d'Amérique du Sud. Alors, amis cultivateurs de la margerie dans l'Auxerre, de la limagne dans le Puy-de-Dôme, fais gaffe à tes terres, méfie-toi du Monopoly et des envahisseurs. Ronde des journalistes, je vous l'ai dit, donc en direct avec déjà autour de ce micro. Nous avons donc Laure Noilat de Libération et de Terra Economica. Nous avons Fabrice Nicolino de La Croix et de Terre Sauvage. Nous rejoindrons Cécile Gladel qui se trouve, elle, au Québec. Oui, absolument, avec un petit décalage horaire. Et Jean-Marie Pelt aussi, qui est donc avec nous. Et puis Hervé Kempf du Monde devrait normalement nous rejoindre. À moins qu'il y ait une très très grosse tourne, c'est pas, il devait être là. Mais enfin bon, cher Hervé, on t'attend avec beaucoup de plaisir. Alors Fabrice Nicolino, donc là, c'est vrai que là, ce papier, vous l'écoutiez, c'est quand même une information qui est quand même assez délirante, quoi. De maintenant, ça y est,
C'est un peu apocalyptique, disons-le. Moi, je suis effrayé. Je connaissais un peu l'information, je connaissais pas tous les détails que vous avez donnés, Denis. C'est vrai que ça fait carrément peur. Ça révolte aussi. Il faut savoir qu'une partie des productions qui seront cultivées, qui sortiront de ces terres, achetées à prix d'or, eh bien une partie de ces productions serviront à fabriquer des biocarburants, lesquels serviront, eux, à fabriquer un carburant végétal destiné à nos voitures. Mmh. C'est comme un cercle qui se referme. C'est-à-dire que d'un côté, on va affamer davantage les populations du Sud, et de l'autre, on va continuer à soutenir de la manière qu'on sait l'industrie automobile du Nord. Évidemment, il y a, comme qui dirait, un problème moral dans cette histoire.
Alors Fabrice, on a eu une publicité qui est parue il n'y a pas longtemps par France Betterave. Publicité donc sur l'éthanol, bon, qui est arrivé en pleine conférence internationale donc sur le climat. Et donc ils ont communiqué tout à fait massivement. On rappelle quand même une chose, c'est que le problème des agrocarburants en France n'est quand même pas le même que celui évidemment dans les autres pays. C'est pas non plus forcément les mêmes donnes. Mais malgré tout, ils y ont été, quoi, effectivement, pour dire qu'ils avaient investi des centaines de millions d'euros d'investissement, sans trop parler des subventions, qu'il y avait des milliers d'emplois créés, que c'était une production non délocalisable, qu'il y aurait 60% de CO2 en moins dans l'atmosphère grâce à la betterave, que le carburant serait moins cher de 30%. Enfin voilà, donc quel est un petit peu votre sentiment?
Mon sentiment est très simple, très direct. Il s'agit de vulgaire propagande commerciale. C'est leur droit d'une certaine façon. Hein. France Betterave a fait une publicité absolument mensongère. C'est très facile de le démontrer, hein. Il y a aucun doute possible. Simplement, ils ont l'argent pour acheter des pages entières de publicité. Et Dieu sait que la presse française ne s'est pas privée d'accepter des pages entières de France Betterave sur ce sujet. Et c'est quand même assez spectaculaire de penser qu'on a le droit d'acheter dans des journaux d'information comme Le Monde, Libération, comme Le Nouvel Observateur, on a le droit d'acheter des pages entières dans lesquelles on peut écrire des mensonges certains. Parce qu'on a l'argent pour le faire. Non, la question des biocarburants, vous dites, c'est pas la même chose que comment dire, en Europe et dans le reste du monde. C'est vrai. Et en même temps, il faut bien comprendre que l'agriculture, elle est mondialisée. C'est un seul et même système. Et je pense que les biocarburants en Europe ou les biocarburants dans le reste du monde, c'est un seul et même système condamnable où qu'on soit dans le monde.
D'accord. Alors Hervé Kempf, qui est journaliste au Monde, donc nous a rejoint tranquillement, donc auteur aussi d'un ouvrage qui s'appelle Comment donc les riches détruisent la planète, et puis au mois de janvier, donc un nouvel ouvrage là que je viens effectivement de recevoir, qui s'appelle donc Pour sauver la planète, sortez du capitalisme, et ça donc on pourra en parler aussi dans cette émission. Cher Hervé, ça va, tout va bien?
Ouais. J'ai un peu pédalé sur mon petit vélo.
Oui, parce que je tiens à préciser que quand même nos amis ne sont pas venus en 4x4, ils l'ont laissé au garage. Ils viennent vraiment, effectivement. Alors Hervé Kempf est venu donc à vélo, Fabrice Nicolino à pied, Laure Noilat est venue elle aussi donc avec son petit vélo, donc souffler tranquillement. J'allais dire que pour justifier le titre de cette émission, c'est au-delà de mon amour, donc un autre sujet. On a eu le lever de rideau donc avant Copenhague en 2009 de ce qui s'est passé à Poznan. Donc en 2009, donc on actera la suite du protocole de Kyoto. Là, je dirais qu'on négociait, on va dire, les chances de réussir à Copenhague. Alors, on avait, je vais faire simple et vraiment à gros traits, donc on avait l'Europe de l'Est et les Polonais qui ont quand même 180 000 mineurs aujourd'hui et qui sont encore à fond sur le pied à fond sur le charbon. On avait l'Allemagne avec touche pas mes gros cylindrés. On avait la France avec où est le problème puisqu'on a le nucléaire. Bon, alors qu'est-ce que l'on peut effectivement dire de cela aujourd'hui en sachant que vraiment le très grand rendez-vous ce sera donc Copenhague d'ici un an, Hervé Kempf?
L'Europe a été absente. Elle a été absente dans la négociation de Poznan et elle a beaucoup déçu dans sa négociation du paquet énergie-climat, qui était ambitieux dans son principe et qui s'est révélé très décevant dans sa concrétisation, puisque très schématiquement, l'objectif de 20% de réduction des émissions de gaz à effet de serre par l'Europe en 2020 ne sera pas atteint par ce dispositif. Et que par ailleurs, pour l'instant, une fois de plus, on a laissé les économies d'énergie de côté. Mmh. Deux à Poznan même, deux faits marquants, l'émergence des pays du Sud, très impressionnant. Ils sont maintenant conscients du changement climatique et ils en observent chez eux les conséquences. Ils prennent chez eux des mesures et des politiques, mmh. et parfois plus audacieuses ou ambitieuses ou effectives que les pays du Nord. Et trois, ils viennent dans la discussion avec ces deux éléments et ils pèsent vraiment dans la négociation. Trois, pour finir de résumer, une grosse discussion sur, c'est un petit peu technique, le fonds d'adaptation. En gros, quand et comment les pays du Nord, qui sont quand même responsables largement du réchauffement climatique, consentiront-ils à dégager des ressources pour transférer aux pays du Sud pour les aider à faire face aux effets du changement climatique.
Alors un homme comme Pierre Radagne que vous connaissez, donc qui est expert chez Futur Facteur 4, donc nous dit qu'il est un homme qui a l'habitude des négociations avec l'ONU, qu'en général c'est toujours un an sur deux, c'est-à-dire qu'un an on avance et puis un an on a fait du surplace. Mais ce qu'il dit aussi, c'est que le vrai problème, et c'est ce que vous dites aussi Hervé Kem, c'est quand même la solidarité et d'essayer de trouver aussi une gouvernance mondiale opérationnelle, ce qui n'est pas encore le cas.
Non, on en est très loin, on en est très loin, et cette gouvernance devra se trouver autour des aspects financiers. C'était très clair et c'était l'enjeu avec ce fameux fonds d'adaptation. Très schématiquement, l'enjeu, c'était de sortir du système habituel où les bailleurs de fonds, c'est-à-dire les pays du Nord, font une sorte de charité par l'aide publique, très minime d'ailleurs, ou par la Banque mondiale, donnent de l'argent, donc veulent contrôler l'utilisation de cet argent. Là, les pays du Sud ont dit non, dans ce que vous verserez dans le fonds d'adaptation, c'est nous, pays du Sud, qui aurons le contrôle de l'argent.
Alors, Lord Noilat.
Je voudrais juste préciser que dans les pays du Sud, c'est pas un bloc homogène. Hein. On a quand même les pays les moins avancés et puis on a les pays les nouveaux émergents, comme l'Inde et la Chine, et puis les pays nouvellement développés, comme l'Arabie Saoudite, Qatar, etc., qui sont pas considérés dans le groupe des pays du Nord. Donc, on a en plus dans ce groupe des pays du Sud, différentes configurations. C'est tout, je voulais juste préciser.
Alors, nous allons aller du côté du Québec, parce que Cécile Gladel, donc de Radio-Canada, nous écoute. Chère Cécile, bonjour à vous.
Oui, bonjour Denis, bonjour à tout le monde.
Faites-nous s'il vous plaît, chère Cécile. Donc on voit où est Québec, où est Trois-Rivières. Après, on continue dans l'estuaire, on remonte et on arrive chez vous, donc à Montréal. Faites-nous un peu quand même un coup de météo, parce qu'on adore ça, vous savez, en France. Donc, dans quel état vous êtes, vous, actuellement?
Ah ben moi je suis bien au chaud chez moi évidemment, mais je n'aurais pas mis le petit doigt dehors ce matin encore. Et puis comme je suis le matin très tôt, je ne veux pas sortir parce que nous avons un charmant moins 17 degrés avec un charmant facteur vent qui nous fait à peu près moins 28 et une tempête de neige avec 20 ou 30 centimètres qui nous arrive demain. Alors c'est un week-end formidable. Alors,
vous êtes une journaliste canadienne en environnement. Vous avez aussi un blog qui s'appelle La Planète Écolo. On donnera tout ça sur le site de CO2 Mon Amour. Lorsque l'on parle d'énergie, qu'est-ce que vous avez envie de dire, vous, effectivement, comment ça se passe, je dirais, au Canada?
Ben, nous, on a beaucoup de, comme je parlerai du Canada, mais aussi du Québec. Au Québec, on parle beaucoup d'efficacité énergétique, c'est-à-dire de réduire notre consommation d'énergie. Je vous avoue que c'est très difficile quand on a des températures comme ça, la consommation augmente en flèche. Alors évidemment, le Canada en général, mais le Québec plus particulièrement, c'est l'énergie hydroélectrique de notre côté et on n'a pas beaucoup d'énergie nucléaire. On a une centrale nucléaire au Québec, il y en a beaucoup plus en Ontario où l'Ontario est vraiment avec les centrales nucléaires. Alors au Québec, évidemment, c'est l'énergie hydroélectrique, mais on continue à la développer, même si on devrait peut-être mettre l'emphase sur la baisse de la consommation d'électricité, ce qu'il faudrait faire partout dans le monde, finalement, surtout dans nos pays émergents où l'on consomme à grands coûts d'électricité, puis l'électricité est beaucoup moins chère ici au Québec qu'en France, par exemple. Alors, nous, on est vraiment à l'énergie hydroélectrique et on développe encore, par exemple, le gouvernement du Québec veut développer dans les prochaines années une centrale hydroélectrique dans le nord du Québec, sur la côte nord, et malheureusement dévier une rivière qui s'appelle la Romaine. Mm-hmm. Et bien sûr, on va détruire les écosystèmes qui sont autour en même temps. Et par le fait même, le gouvernement a aussi décidé de rénover la seule centrale nucléaire qu'on a au Québec à grands coûts de dollars, évidemment, ce que les groupes écologistes, évidemment, dénoncent.
Alors, vous avez aussi donc ces fameux schistes bitumineux, les sables bitumineux de l'Alberta. Donc, évidemment, on n'est pas au Québec, mais enfin, on n'est donc pas loin.
On est loin quand même, mais on n'est pas loin du tout.
Oui, c'est ça. Pardonnez-nous, effectivement, avec notre distance. Mais effectivement, vous êtes quand même pas à côté. Ça représente à peu près de 2,2%, on va dire, des réserves aujourd'hui mondiales. Mais il y a un coût absolument monstrueux à payer, là.
Ah, c'est un coût environnemental épouvantable parce que la province de l'Alberta, dont est issu le premier ministre canadien conservateur, Stephen Harper, et le ministre de l'Environnement du Canada aussi, Jim Prentice, qui sont issus de l'Alberta, donc de la province qui produit ces sables bitumineux, et je pense qu'Hervé Kinff en avait déjà parlé l'année dernière, quand il avait été en Alberta, il avait fait un reportage sur l'impact épouvantable sur l'environnement de ces sables bitumineux. Et malheureusement, l'Alberta, c'est son gagne-pain, c'est son économie est basée sur ces sables bitumineux. Alors, c'est évident que le premier ministre qui est issu de cette province-là, qui ne parle que de sable bitumineux et de cette énergie-là, alors dans ce cas-là, ben l'environnement passe très largement en arrière et on n'en parle à peu près pas. D'ailleurs, pendant la conférence à Poznań, le Canada, les groupes environnementaux ici au Canada et tout ça, le Canada a été décrié et a été... On a beaucoup dit que le gouvernement canadien avait bloqué les négociations, n'avait pas été dans le groupe, le trio, on les a surnommés, je pense, le trio des idiots avec la Russie et le Japon, qui ne voulait pas aller plus loin et pensait surtout à la crise économique avant l'environnement.
Alors merci à vous Cécile, on vous rejoint dans quelques instants. Jean-Marie Pell, comment allez-vous? Bonjour Jean-Marie.
Très bien, bonjour à tous, bonjour.
Ben voilà, vous êtes chez vous en Lorraine, hein. On pratique ce qu'on va dire le télétravail en quelque sorte aujourd'hui avec vous.
Hein. Oui, mais ce que j'entends c'est que il y a de la neige partout, à Montréal il fait très froid, il paraît que les aéroports de New York sont bloqués, il y a énormément de neige dans les Alpes du Sud et il n'y en a pas chez nous. Il n'y a plus de neige en Lorraine, voilà.
Voilà, ah ben voilà, donc c'est ça. Mais c'est peut-être vous qui réchauffez le climat, je ne sais pas.
Je ne sais pas.
Hein, ça doit être ça.
Mais il faut que nos auditeurs sachent que cette notion qui fait partie des grandes thématiques mythologiques du citoyen français, à savoir l'hiver lorrain, oui. Ben, il n'y a plus d'hiver lorrain, on ne sait plus ce que c'est.
Bon, donc vous avez rentré la luge.
C'est voilà, il n'y a plus de luge.
Il n'y a plus de schlitt non plus, donc dans les Vosges voisines. on vous retrouve dans quelques instants, donc après ce premier disque, Jean-Marie, et puis aussi donc tous nos amis, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de thèmes sur la table. Vou duvidar ou negar, e se Deus não dá, como é que vai ficar ou negar? Diz que Deus diz que dá, e se Deus negar ou negar, o homem indignar e chegar, Deus dará, Deus dará. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a, que c'est celui-là? Il a un drôle d'accent, ce gars-là, il a un drôle de voix. On va pas se l'échapper, les gars. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a? Non, m'échappe pas, mon petit gars. On va mettre en prison, ce type-là. S'il continue comme ça, s'il continue comme ça. Io so cara cosa adora, adora brincadeira. Vostro amico gano mondo, cigno mondo intero. Mai da c'è un monte grassato, mi botta cabrero. Na barriga da misero, na simba tuchero. Sono do Rio de Janeiro. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a? Che c'è celui-là? Complemento che se mecla. Il a un drôle de tête, ce type-là. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a? Et si Deus negar, oh negar, oh homem de guinar e chegar, Deus dará, Deus dará. Ce n'est pas ma faute à moi si les femmes est mariée. Je préfère sortir avec moi pour jouer à la poupée. Ils aiment mes cheveux blancs, mes épaulissons. Mais je crois que ce qu'elle fait, c'est mon petit vétron. Elle est maridée de moi. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a, que c'est celui-là? Complément toqué, c'est mec-là. Complément gaga. Il a un drôle de tête, ce type-là. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a? Et si Deus negar, oh negar, o homem de guinar e chegar, Deus dará, Deus dará. Si vous savez comme c'est beau d'être bien dans sa peau, je bois mon pastis au bar avec le chef de gare. Mas alguém me desafia, bota mais no meio. Não per nada, três por quatro e nem me despedeio. Que eu já tô de tchaco cheio. Diz que deu, diz que dá, diz que Deus dará. Complemento que se mecla. Complemento gaga. Como é que vai ficar ou negar? Diz que Deus, diz que dá. E pro sabanhol, legal. Ele
Voyant que sous cette terre tout n'était que vice, et que pour faire des affaires j'ai manqué de malice.
Dos mi do perna compride zi muita malicia, fra corrida sta gibori fuggi da policia, un dia in son notizia.
Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a, que c'est celui-là?
Non vuoi dubitare, oh dega, e se dos non da.
Il a un do de tête, ce type là, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a?
E se dos negar, oh dega, vuoi mi ginginare, chega.
Ça, ça, ça passe comme ça, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a, que c'est celui-là. Il a un drôle de tête, ce type-là, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a.
Choisi par Emmanuel Chupin, Charles, nous étions effectivement. Mais c'est pas grave, tout va bien, c'est la vie, c'est du direct. Mais oui, vous êtes sur France Inter, c'était Pierre Vassiliou et Toko, ce qui sait, c'est de là. Et d'ailleurs, effectivement, le Brésil me renvoie à ce que dit Jean-Pascal Van Ypersel, qui est le professeur à l'Université catholique de Louvain, en Belgique, et qui est le vice-président donc, du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Et donc là, ils sont quand même assez d'accord en disant que depuis plusieurs études scientifiques, on nous montre que la majorité des agrocarburants actuels, sauf la canne à sucre et le Jatropha, donc un potentiel médiocre de réduction des émissions quand on analyse l'ensemble de leur cycle de vie, et en outre entre bien souvent en conflit avec les impératifs de sécurité alimentaire dont on a parlé. Laure, peut-être sur l'énergie, vous vouliez un petit peu rebondir, Laure Noilat.
Oui, je voulais profiter de ce que nous disait notre confrère québécoise pour reparler de cette acquisition qu'a faite EDF en début de semaine, cette acquisition assez atterrante encore une fois. EDF est aller racheter la majorité des actions de Constellation Energy. Constellation Energy étant un énergéticien américain qui effectivement fournit l'électricité, du gaz, et donc qui possède 5 ou 8 réacteurs nucléaires. Je ne sais pas exactement, je cherchais l'information, je ne l'ai pas trouvée. Enfin bref, ce qui est intéressant, c'est qu'EDF a vraiment beaucoup insisté pour obtenir Constellation Energy. Et alors, a tellement insisté que ça en devient absurde. En septembre, ils offraient $35 l'action à Constellation Energy, et en prétextant des problèmes, des conditions de crédit un peu difficiles en septembre, souvenez-vous, en septembre c'était un peu le méga gros crack mondial. Donc effectivement, les conditions de crédit n'étaient pas idéales pour EDF. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dit, ok, on se retire. Warren Buffett augmente sa participation dans Constellation Energy. Et puis, assez vexé, apparemment, EDF revient à la charge. Et là, vient de s'offrir pour $52 l'action Constellation Energy. 50% des parts de Constellation Energy. Je ne comprends pas la logique financière qui se cache derrière ça. Surtout, donc c'est, je crois que c'est pour un montant de 4 milliards de dollars, 3,5 millions d'euros, quelque chose dans ces eaux-là. Et ce qui est assez intéressant, c'est que EDF vient quand même aussi de s'acheter British Energy pour 15 milliards d'euros. Donc je ne sais pas quelle est la logique financière qui sous-tend tout ça. Si c'est pour vendre des EPR, on n'a peut-être pas besoin de lâcher tout cet argent. Juste pour terminer et conclure là-dessus, c'est que EDF, l'actionnaire majoritaire, c'est l'État. C'est-à-dire à 85%, c'est nous. Ce sont nos factures qui vont aller payer les investissements hasardeux d'EDF, que ce soit aux États-Unis ou en Grande-Bretagne. Parce que le parc nucléaire américain ou britannique, les deux parcs nucléaires ne sont pas en très bonne santé.
Hervé Kempf, EDF a aussi donc ouvert de nouvelles centrales au fioul.
Oui, absolument. Ils le font toujours très discrètement. Mais enfin, depuis 2005, EDF a mis en service 2600 mégawatts de centrales au fioul. Alors cette grande entreprise qui, avec ses centrales nucléaires, prétend que nous n'émettons pas de gaz à effet de serre, en fait, accroît ses émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin...
Mais pas avec les centrales, ils émettent effectivement
avec les centrales au fioul, qui remettent en service ou qu'ils fabriquent, qu'ils... Et pourquoi ? Parce qu'il y a des pointes pendant l'hiver normalement. Les centrales nucléaires assurent ce qu'on appelle la base, c'est-à-dire une grande consommation régulière, mais sont incapables de faire face à ces pointes de consommation très importantes. Et donc, plutôt que de chercher à réduire la consommation d'énergie, EDF, qui vise toujours à produire toujours plus d'énergie, est contraint de mettre en service des centrales qui vont émettre beaucoup de gaz à effet de serre.
L'Ornoilat.
Le pic de consommation maximale qui est observé l'hiver correspond à trois fois le maximum maximum de l'été, le minimum de l'été. Donc on est quand même en hiver. Bon, effectivement, en plus, chez nous, il fait même pas moins 17 degrés avec la tempête de neige à moins 28. Non, non, on est en plus, on n'est même pas voilà, dans des situations de grand froid, quoi.
Oui, chère Cécile, d'ailleurs, effectivement, à propos de grand froid, donc vous avez fait une petite étude, on va peut-être pas vous dire directement, mais sur le cycle de vie du sapin de Noël. On va être plus léger.
Non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi qui ai fait l'étude, non, oui, c'est une firme de consultants en développement durable qui a fait une étude parce qu'on se posait beaucoup la question au Québec depuis plusieurs années, qu'est-ce qui est le plus écologique, un sapin naturel ou un sapin artificiel? Alors, il y avait les pour et les contre et les pour, et finalement, une firme a fait une étude du cycle de vie pour arriver à la conclusion que le plus écologique, c'était le sapin naturel, qui est produit, que l'on va chercher à moins de 20 km de chez soi. Donc, au Québec, on a beaucoup de producteurs de sapins qui sont produits et sur des terres arables et qui, pendant les 15 ans de leur existence, de leur croissance, permettent d'absorber du gaz carbonique en plus. Et donc, c'est plus écologique, évidemment. Et le sapin artificiel est le plus écologique seulement si vous le gardez 20 ans.
Ah,
il y a
oui.
peu de personnes qui gardent un sapin artificiel 20 ans. Alors, il y a quelques conditions quand même.
D'accord. Jean-Marie Pelt, si on faisait un petit tour avec vous au Mexique, qui est le berceau du maïs, et berceau du maïs malheureusement contaminé par les OGM. On s'est rendu compte qu'une étude a été menée par des chercheurs mexicains, américains et néerlandais, et qui démontre la présence de gènes, donc qui proviennent d'OGM, parmi les variétés de maïs traditionnelles, donc cultivées, en plus dans une région qui est à circuler. Hein. On est dans le sud du pays, Jean-Marie. Quelle est un peu votre réaction ?
Mais écoutez, cette étude confirme ce qu'on sait depuis déjà longtemps. Il y a eu des études précédentes qui nous l'avaient déjà dit. La réalité, c'est que lorsqu'on parle d'OGM et que l'on parle de contamination des plantes non OGM, en l'occurrence pour le maïs, c'est le maïs OGM qui transfère ses gènes au maïs non OGM, on dit non, cette contamination, il n'y a pas de risque parce que à partir d'une certaine distance courte, c'est de l'ordre de centaines de mètres, eh bien le pollen n'est pas transféré. Alors ça c'est faux et nous savons depuis très longtemps, puisque je l'enseignais moi-même quand j'étais encore en exercice à la fac, que une part du pollen émis par les plantes qui sont pollinisées par le vent est emporté à haute altitude dans l'atmosphère et est emporté ensuite par les courants de haute altitude, les fameux jet streams, peuvent aller ces grains de pollen très très loin et redescendre à des centaines ou des milliers de kilomètres du lieu d'émission. Donc c'est exactement ce cas de figure dans lequel nous sommes, et ceci a été relativement récemment prouvé avec une argumentation et une expérimentation très fine par notre collègue Pierre-Henri Gouillon, pardon, qui est au Muséum, qui est un très éminent biologiste, très connu et très estimé dans notre corporation de biologistes environnementaux. Donc voilà, ben il n'y a pas de surprise, il y a simplement la confirmation de ce qu'on dit et de ce qu'on sait depuis très très longtemps.
Et les paysans ont toujours eu l'habitude, dans ces pays-là, comme on le faisait d'ailleurs aussi chez nous il n'y a pas si longtemps, d'échanger donc leurs semences, et donc ça risque aussi d'aggraver après la suite.
Bien sûr, alors ça c'est l'ancien privilège de l'agriculture, c'est comme ça qu'on dénomme cette tradition. Bien sûr, alors on va effectivement transmettre un maïs qui est contaminé de paysan en paysan. Vous savez que ce privilège est nié par les grandes multinationales comme Monsanto, qui bizarrement restent propriétaires de leurs graines quand ils les ont vendues, puisque le détenteur des graines a signé un contrat avec le vendeur, la multinationale en question. Il ne peut pas ressemer les graines des plants qu'il a obtenus en première génération, et il ne peut surtout pas faire ce type d'échange. Évidemment...
C'est ce qu'on appelle la privatisation du vivant, quoi.
C'est absolument le fameux hold-up sur le vivant on a abondamment parlé dans le récent film sur Monsanto.
Alors, nous allons avec vous, Laure Noilat, aussi parler de la condamnation de Guayapi Tropical. Racontez-nous, qu'est-ce que c'est ?
Ah, Guayapi Tropical est une petite société qui vend des produits, des compléments alimentaires, mais aussi des produits, des boissons sucrées, etc. La majorité de ces produits proviennent d'Amérique du Sud. Guayapi Tropical a eu l'ingénieuse idée d'importer en France et d'essayer de vendre en France ce qu'on appelle la stevia. Alors, qu'est-ce que la stevia ? La stevia, franchement, c'est un truc magique. C'est une petite plante qui pousse en Amérique du Sud.
On va pas vieillir, c'est ça ?
Non, moi je veux vieillir, c'est pas ça. Ah, non. La magie, c'est, on va dire, pas grossir. Voilà. Bon.
Pas grossir, ah, bah, oui.
C'est ça, moi je veux vieillir, mais pas grosse. Et donc, du coup, la stevia, petite plante, qui a un pouvoir sucrant 200 fois supérieur au sucre traditionnel saccharose fructose,
oui.
Zéro, et qui affiche 0 calories au compteur. La stevia, puisqu'elle pousse dans la nature, elle est complètement gratuite et ouverte à tous. Et les Indiens d'Amérique du Sud l'utilisent depuis des millénaires. Ils ne sont jamais tombés malades à cause de la stevia. 40% des édulcorants de synthèse, au Japon, sont fabriqués à partir de stevia. Parce qu'elle a des principes actifs type rébodioside A, qui sont justement ces fameux éléments très sucrants à 0 calories. Figurez-vous que la stevia est interdite en France. Mmh. Voilà. Donc Guayapi Tropical a voulu faire des poudres de feuilles séchées de stevia et ont disposé dans les magasins, évidemment les magasins bio, hein, on va pas trouver les grands supermarchés. Et ils ont une obligation, c'est de le faire. Eux, ils voulaient le mettre comme complément alimentaire ou sucre. Alors on les a obligés, certains petits malins les vendent. On est obligé de le vendre, par exemple, si on veut avoir le droit de le vendre en France, faut le vendre au rayon cosmétique. Ça n'a strictement rien à voir avec un cosmétique.
Non mais en gros, à qui profite le crime, quoi, effectivement ? Pourquoi est-ce qu'il y a blocage
là, à votre avis, l'édulcorant de synthèse, c'est quand même un marché de plusieurs milliards de dollars. Ce sont des grands groupes qui ne font pas partie des plus gros philanthropes de la planète.
Avec Monsanto,
qui est d'ailleurs l'aspartame, effectivement.
Et qui a toujours un gros business dans l'aspartame.
Il y a une autre petite société française, Green Sweet, qui aimerait bien mettre de la stevia dans des compléments, dans des préparations de l'agroalimentaire. Bon, et comme heureusement, la stevia vient d'être autorisée en Suisse en septembre, Green Sweet va aller trouver des industriels pour mettre de la stevia dans les produits laitiers, etc. Enfin, je rappelle aussi que dans ce monde où on a inventé un mot qui s'appelle la diabésité, qui a un mélange entre l'obésité et le diabète.
Parce que c'est pas ça, la diabésité. Ah oui, d'accord.
La diabésité, vous êtes diabétique et obèse, c'est le diabète de type 2. Bon, bah ça, dans un monde où on a une épidémie d'obésité, on pourrait peut-être utiliser les plantes, qui, comme tout produit, se trouvent dans la nature. Et de toute façon, c'est la dose qui fait le problème, si c'est un poison ou pas. C'est pas une question. Voilà, donc ce que je voulais dire, c'est que ça pourrait quand même, que Guayapi a été condamné début décembre. Ils vont évidemment faire appel. Et il y a une petite ouverture, une petite brèche, parce qu'il faut quand même terminer par des trucs un peu optimistes et positifs. Petite brèche, l'AFSA, l'Agence française de sécurité sanitaire de l'aliment, sur les aliments, a rendu un avis très récemment, disant que le rébodioside A pouvait éventuellement être utilisé et qu'il était inoffensif.
Alors toujours en direct, je vous rappelle, c'est Au de mon amour aujourd'hui sur France Inter, ronde des journalistes, Cécile Gladel depuis le Québec, depuis Montréal. Réaction peut-être de votre part.
Oui, je pourrais, lors de mon prochain voyage en France, en amener alors, puisque au Canada, la stevia est autorisée, mais pas dans les aliments transformés et elle ne peut pas être utilisée comme additif alimentaire. C'est seulement un produit qu'on retrouve en produits naturels.
C'est pas la peine de m'en amener. Il y a un pâtissier bio en bas chez moi qui en importe parce qu'il les a commandés sur Internet. Elle vient du Canada, effectivement. Et voilà, il travaille. Il fait des gâteaux illégaux, finalement. Donc, moi, je dis vive la subversion et la désobéissance civile.
Je vois bonheur. Cécile Gladel, dans votre grand nord canadien, je sais que vous vous tirez un petit peu la bourre, comme on dit, avec la Finlande pour avoir la résidence du Père Noël. Mais quand même, vous affirmez qu'il est dans le grand nord canadien. Il n'y a pas de souci, c'est ça.
Il est dans le grand nord, on va dire.
Oui.
Noël.
Et qu'est-ce que l'on constate d'un point de vue climat quand même, d'abord?
Là, il y a des scientifiques qui se sont réunis la semaine dernière à Québec pour parler évidemment du Grand Nord en général, mais du Grand Nord canadien, puisque les changements climatiques ne sont plus quelque chose qui pourrait arriver là-bas, mais qui sont déjà actif et que les Autochtones, les Inuits, tout ça remarquent déjà comme l'arrivée dans le Grand Nord canadien. Alors, les scientifiques se sont réunis parce que c'est quelque chose qui est de plus en plus dramatique et de plus en plus à prendre en compte. Et ces grands experts-là s'inquiètent de la situation et poussent aussi les grands pays, tous les pays, à prendre des mesures pour réduire les gaz à effet de serre. Mais on voit qu'avec ce qui s'est passé à Poznan, que c'est pas très, très, très évident. Et en même temps, on a notre premier ministre québécois, parce que je vais vous parler plus du Grand Nord québécois, Jean Charest, qui a des grandes ambitions pour le développement du Nord, parce que puisque les changements climatiques arrivent, le Grand Nord se réchauffe. Et là, on peut, lui, il voudrait aller développer de l'hydroélectricité dans le Grand Nord, aller évidemment chercher les ressources minières et aussi développer le tourisme dans le Grand Nord. Malheureusement, le premier ministre n'a pas encore consulté les habitants de ce Grand Nord-là, les Inuits, les Autochtones.
Il manquerait
plus. Alors là, on va avoir des problèmes, je pense.
Voilà. Merci à vous, Cécile. Alors, il nous reste encore pas mal de sujets dans notre musette. Nous allons parler de la Corse avec un barrage. Nous allons parler des méduses. Nous allons pouvoir parler aussi de flamants roses, que sais-je. Mais avant, quand même, une petite pause musicale avec ce disque.
Oh, surtout ne rien changer. Pas de taxes sur ce qui pollue, ne pas contrarier le gentil marché, et puis un peu de peinture verte, là, pour faire illusion. Désolé, mais vous vous êtes trompé de film. C'est au de mon amour, Denis Chessou.
Vous dansiez sur la piste à peine éclairée, vous dansiez seul.
Barbara Carlotti sur France Inter en direct, vous dansiez, CO2 mon amour, donc ronde des journalistes avec Jean-Marie Pelt, Lorne Wallat, Hervé Kempf, Cécile Gladel depuis le Québec et Fabrice Nicolino de La Croix et de Terre Sauvage. Alors on va parler effectivement de la Corse, parce qu'aujourd'hui il y a une journée de mobilisation dans le sud de la Corse contre le barrage du Risanezze, pardonnez-moi, on en avait parlé avec au Festival du Vent, donc c'est un petit fleuve de 44 km, peut-être un des plus sauvages évidemment de France, et que va-t-il se passer Fabrice.
Bah, ce qui va se passer, c'est déjà bien avancé. Hein. C'est un combat qui dure depuis une dizaine d'années. En fait, EDF, encore elle, je suis désolé, mais c'est comme ça. EDF, l'entreprise nationale française, veut construire un barrage très impressionnant sur ce tout petit fleuve de 44 km. Un barrage qui coûtera, en argent public, bien entendu, 200 millions d'euros. Dans le meilleur des cas, ce barrage ne produira que 4% de l'électricité utilisée en Corse chaque année. Et bien sûr, ce barrage détruira, pour l'essentiel, l'écosystème d'un fleuve qui reste aujourd'hui unique en France parce qu'il est intouché. C'est-à-dire que son écosystème reste naturel. Et là, on s'apprête véritablement, à mon avis en tout cas, à tuer ce petit fleuve assez magique, assez extraordinaire. Donc il est au sud de la Corse. Et
il se jette vers Propriano, à peu près.
Oui, il se jette tout près de Propriano. Et d'ailleurs, c'est un problème parce que le barrage va retenir des milliers. On pense que ça va retenir 13 000 tonnes de pierre chaque année derrière le mur du barrage, et que ces pierres n'arriveront plus jusqu'à la mer. Et donc, la plage de Propriano est virtuellement
menacée.
Alors,
on va vous dire, évidemment, ça c'est encore une réaction donc d'écolos, de Khmer Vert, etc., parce qu'il y a toujours eu un problème d'énergie en Corse. Ils ont deux centrales au fioul bien pourries, il faut le dire.
Bien sûr, c'est vrai.
Des pannes. Alors, il faut dire aussi qu'ils n'ont jamais voulu être reliés par un cordon ombilical, on va dire symbolique, pour aussi avoir du nucléaire. Ça remonte il y a quand même pas mal d'années. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez, en même temps,
Est-ce que le débat est ouvert? C'est toute la question. À mon avis, le débat sur l'avenir énergétique de la Corse, de la France en général, ce débat-là n'est pas ouvert. C'est-à-dire que des décisions sont prises sans nous, le plus souvent contre nous. Et dans cette mesure-là, il est absolument clair que discuter ne servirait à rien. Il y a un barrage pour l'heure.
Alors, l'heure, il n'y avait peut-être pas sur le sujet, mais enfin, effectivement, sur la suite, peut-être par rapport au grenade de l'environnement, ce qui était dit.
Non, mais juste encore une fois, on ne discute pas de la possibilité de faire des économies d'énergie, on ne discute pas du tout les façons qu'on a de consommer l'énergie. C'est marrant de rebondir sur, effectivement, le grenade de l'environnement. J'aime bien la formule. Pour moi, le grenade de l'environnement, c'est le Munich de l'écologie, quoi. Voilà, parce qu'on aura aussi les changements climatiques, on aura aussi les emmerdements environnementaux, et on a passé du temps à discuter, et rien ne se traduit concrètement, réellement dans les actes, quoi.
Non, mais il y a quand même des choses qui ont évolué. Enfin, au niveau du bâtiment, on voit bien qu'il y a quand même des initiatives. Même au niveau des déchets pesticides, on ne peut pas dire qu'on les défend vraiment violemment dans cette émission, ni non plus dans vos colonnes. Mais bon, il y a quand même des décisions. Alors maintenant, comment ça va se traduire? C'est ça.
Pour l'instant, franchement, très peu de choses. Des déclarations d'intention. Et de toute façon, il est sûr que même si ces déclarations devenaient une réalité, elles ne seraient absolument pas à la hauteur des événements qu'on décrit chaque jour dans nos colonnes. En effet, on est en face d'une crise écologique, planétaire, extraordinairement grave. Et le gouvernement estime qu'il est possible de lutter contre cette crise très grave en appliquant une rustine dans un coin pour cacher la misère du monde. Et la misère du monde, c'est que cette crise est là et qu'elle est devant nous.
Mais ils ne sont pas enthousiasmants. Hein, mais enfin, ils font leur boulot.
Ils continuent à aménager. Enfin, il y a ce barrage qui est une monstruosité. Monsieur Fillon, le Premier ministre, dans le plan de relance, entre guillemets, a réouvert des chantiers pour 3 nouvelles autoroutes. Et puis, on peut signaler au passage que l'A65,
mais aussi
les travaux... Une autoroute, un projet d'autoroute totalement absurde entre Pau et Langon, les travaux, le chantier public a commencé et a détruit un site magnifique qui est les Trois Fontaines.
Mais là, tous les barons locaux le veulent, hein, de droite comme de gauche, depuis Pau jusqu'à Paris.
Les barons locaux sont des féodaux, des dinosaures, et ils doivent quitter le terrain.
Et je rappelle que quand même, les ONG ont été convoquées hier à l'Elysée, les ONG qui ont participé au Grenelle, elles se sont quand même fait un peu taper sur les doigts à base de... vous, monsieur le président, vous ne nous supportez pas assez, votre communication est périlleuse, vous mettez, puisque nous avons réussi à obtenir l'accord, le paquet climat-énergie à l'Europe, vous ne voulez pas nous soutenir, etc., etc. Bon, j'ai l'impression qu'on est en train de nous faire très très peur. Du coup, ça leur permet de faire passer le pire, quoi. Le pire, c'est qu'il ne se passe pas grand-chose, c'est-à-dire que rien n'a à la hauteur des enjeux, quoi.
Bon,
voilà.
On va quand même laisser une chance, hein, parce que c'est pas toujours très simple. J'espère qu'il y aura aussi donc un après-Grenelle. Moi, je dis toujours que même si on doit avoir 30% du verre qui est plat, on prendra quand même ces 30%. On n'a pas tellement d'illusions sur l'ensemble des mesures qui ont été proposées. Alors, je sais, vous n'avez pas eu de Grenelle de l'environnement au Québec, hein, cher Cécile Gladel. Donc toujours non. Avec notre décalage, hein, parce que c'est quand même le petit matin chez vous, et on a bien compris que vous vous geliez là sur la fenêtre ouverte par moins 17. L'industrie du...
Oui, l'efficacité énergétique, parlons-en. Hein.
Et ben voilà. Alors, juste un mot quand même, c'est intéressant aussi parce que la crise touche tout le monde. L'industrie du recyclage, comment se porte-t-elle chez vous?
Ben, c'est ça le problème, c'est que le recyclage est en train d'être victime de la crise économique. On a moins besoin de papier, de carton, de plastique. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a encouragé pendant des années au Québec, ça fait plus de 20 ans au Canada même, que l'on recycle, que l'on récupère le plastique, le carton et tout ça. Et là, malheureusement, les centres qui s'occupent de ce recyclage-là sont pris avec leurs ballots de carton, de papier qu'ils ne peuvent plus revendre. Alors, on se demande un petit peu qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qu'ils vont en faire, est-ce qu'ils vont réussir à le vendre ou ils vont devoir le mettre dans les sites d'enfouissement à la poubelle. Alors, malheureusement, on parle encore de recyclage quand on est écolo ici au Québec, alors qu'on devrait peut-être parler de réduction de la consommation enfin et de, au lieu de réduire sa poubelle maintenant, plutôt réduire ce que l'on recycle, tout ce qu'on consomme d'emballage, parce que ici en Amérique du Nord, on est quand même les champions de la consommation de la surconsommation et de l'emballage et de tout ce qu'on peut retrouver dans les magasins, surtout en cette période de fête de fin d'année où tout le monde est dans les magasins d'ici quelques minutes.
On va parler d'un autre sujet avec vous, Hervé Kem. Je ne vais pas faire de liaison parce que je crois qu'il y a très peu de méduses en ce moment du côté du Saint-Laurent, mais les fameuses méduses, c'est-à-dire c'est de la flotte hein, principalement, c'est à 95-98% me semble-t-il, c'est de l'eau, ces bêtes-là. Alors c'est un régal pour les tortues. Les tortues, elles adorent ça, à condition qu'elles ne les confondent pas avec des sacs plastiques. Parce que ouais. Ça, voilà. Que se passe-t-il avec les méduses, Hervé Kem?
Bah écoutez, on va faire une nouvelle enthousiasmante, du moins du point de vue de ceux qui s'intéressent aux méduses, c'est que l'espèce des méduses va bien. Elles vont de mieux en mieux.
Chouette.
Elles se multiplient. Elles mangent tous les poissons. Et voilà. Et en fait, on en parle parce qu'il y a eu, il y a trois jours, la publication d'un rapport de la National Science Foundation aux États-Unis, qui a refait un point sur l'explosion des méduses dans les mers du globe, qui constate que 155 millions de personnes sont chaque année touchées à un degré ou à un autre par des méduses. Et quand je dis touchées, c'est généralement piquées et c'est assez douloureux. Et que les méduses ont un avenir dans un 21e siècle de changement climatique. Alors pourquoi elles se développent autant? Au passage, il faut aussi dire qu'elles mangent beaucoup de poissons. Mm-hmm. Donc elles accroissent encore la pression sur les poissons. Pourquoi est-ce que les méduses se développent autant? Une des raisons principales est que leurs prédateurs, précisément les sept espèces de tortues marines que vous avez citées, ces prédateurs sont en voie de disparition. Et donc, sans prédateurs, la méduse se développe à
voilà.
plein tube.
Et ben voilà, c'est aussi un exemple de nature, on va dire.
La méduse mange du poisson.
Et la méduse...
mange du poisson.
Oui, certaines d'entre elles, oui, beaucoup. Ouais.
On ne les connaît pas toutes, mais il y en a certaines qui doivent aller
au supermarché. Une autre histoire de méduse, en Namibie, il y a maintenant une masse, biomasse de méduse, plus importante que la masse de poisson qui peut être pêché.
Bon, très bien. Alors, vous allez écouter cette musique. On va rester dans les animaux. Tenez, écoutez cette bande originale de film. Nous sommes en Afrique. Nous sommes au nord de la Tanzanie. Et nous sommes face à des flamants plutôt roses. C'est la bande originale du film Les Ailes Pourpres qui est en train de sortir actuellement sur vos écrans. Et Jean-Marie Pell n'a pas forcément vu tout le film, mais a quand même vu quelques extraits. Et donc on est dans le cycle de ces oiseaux, le cycle de la vie qui est quand même très bien représenté. Nous sommes au bord du lac Natron, Jean-Marie Pell.
Oui, alors c'est un lac très salé. Je vous rappelle que Natron, c'était le nom du sodium autrefois, du temps des alchimistes. C'est pourquoi le symbole chimique du sodium dans une équation, tous les jeunes chimistes et étudiants savent ça, c'est Na. Donc voilà un lac donc sans doute extrêmement salé. Les flamants roses, je les ai vus dans ces extraits de film, sont innombrables, je crois qu'il y en a entre 1 million et 1,5 million.
Ils arrivent d'un coup, effectivement, oui. 1,5 million. Ils arrivent par un soir de pluie, on peut les attendre pendant des semaines, et puis donc ils arrivent vraiment sur ce lac avec, non pas de GPS, ils n'en ont pas besoin, mais ils savent très bien retrouver effectivement ce lieu de migration et surtout ce lieu de naissance où ils vont mettre les petits donc à jour.
Oui, alors ça c'est ce qu'on appelle en écologie les effets de groupe, en effet ces immenses rassemblements qu'on voit aussi pour les manchots, etc. Les petits naissent, les petits s'ébattent dans l'eau qui est salée. Parfois, il leur a arrive les malheureux de s'ensaler comme on s'ensablerait, oui. C'est-à-dire que leurs ailes se mettent à coller, ils n'arrivent plus convenablement à se déplacer.
Et on voit effectivement dans le film qu'ils ont une gangue, on va dire, de selles qui les paralysent autour des pattes, ils ne peuvent plus avancer, un peu comme on a des plâtres, vous voyez.
Donc oui, c'est ça. Tout à fait. C'est le genre de malheur qui est arrivé dans la Bible à la femme de Lot, vous savez, à Sodome. Elle s'était retournée alors que le Seigneur leur avait dit de quitter Sodome, et puis elle a été transformée en statue de sel. Moi, je sais que quand j'étais petit, j'étais très impressionné par cette calamité qui s'était abattue sur cette pauvre femme. Alors, c'est un peu ce qui leur arrive. Ils sont transformés en sorte de momies salées, et là, il se passe ce qui se passe dans la nature, c'est qu'ils sont l'objet de prédateurs. Les prédateurs, ce sont des marabouts, oui. Ce sont des gros oiseaux avec un grand bec et un jabot qui se nourrissent de ces êtres fragilisés, parce que dans la prédation, il y a aussi cette idée toujours très présente que le prédateur élimine ce qui est le moins viable dans ses proies.
Et en même temps, cher Jean-Marie, c'est vrai qu'on voit dans ce film l'adaptation vraiment des espèces dans des milieux presque extrêmes. Hein. Ce lac-là, vous n'avez pas d'humains, vous avez effectivement des oiseaux. Et donc on se rend compte une fois de plus que dès qu'il y a une niche, eh ben, la vie fait son boulot. C'est-à-dire qu'elle tente des coups et puis parfois ça ne marche pas, puis parfois ça fonctionne.
Oui, alors il faut savoir que ce n'est pas parce qu'un milieu nous est hostile à nous qu'il est hostile à tous les êtres vivants. On ne fait que découvrir sans cesse des êtres vivants capables de s'adapter à des milieux les plus extrêmes. Les bactéries dans ce domaine-là sont absolument extraordinaires. Elles vivent très profondément dans la terre à des très hautes températures. Elles vivent dans des froids épouvantables. Dans les abysses, il y a de nombreux êtres vivants et de grande taille que l'on est en train seulement de découvrir à 5, 6, 7 000 mètres de profondeur dans la mer. Donc, même la fameuse mer morte n'est pas morte. Il y a beaucoup de petits organismes qui se sont adaptés à ces teneurs en sel extrêmement élevées. Donc, effectivement, la vie s'étend sur un périmètre immensément plus grand que celui qui nous serait favorable à nous. En résumé, la vie, elle nous dépasse considérablement quant aux possibilités qu'elle a de s'adapter à des milieux qui nous sont hostiles à nous.
Eh bien, merci à vous, cher Jean-Marie Pell. Vous n'oubliez pas, vous me récupérez à 17h30 à la gare de Metz ce lundi, hein, parce qu'on a des choses à faire ensemble.
D'accord. Non, un mot, je voudrais dire un tout petit mot sur Stevia. La plante sucrée, il y en a beaucoup, des plantes sucrées, il y en a 4 ou 5, mais c'est une plante qui ne pose pas de problème. Il n'y a jamais eu de problème en ce qui concerne la toxicité du stevia. Il y a simplement, comme on l'a dit très justement, des intérêts économiques. Mmh.
Merci à vous Jean-Marie. Et puis bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine. Alors peut-être un mot, est-ce qu'on peut le faire très rapidement, Lorne Wallat, sur cette association qui fera d'ailleurs le lien avec l'émission de la semaine dernière sur la condition animale, l'association pour la protection des animaux de ferme.
C'est Fabrice.
C'est une très bonne nouvelle. En fait, c'est une très bonne nouvelle. C'est l'association Protection mondiale des animaux de ferme. Et cette association que j'adore personnellement a réussi à acheter une ferme avec 44 hectares de prairies dans la Meuse. C'est une ferme qui va accueillir à partir de l'été prochain un grand nombre d'éclopés de l'élevage industriel, des vaches, des cochons, des canards, de tout ce qu'on voudra, et dans des conditions évidemment décentes, des animaux souvent malades et très malheureux. Donc c'est vraiment une superbe nouvelle et je félicite vraiment Protection mondiale des animaux de ferme.
Lord Wallat, un petit appel au peuple, racontez-nous.
Oui, alors je vais faire un petit appel. À vos
c'est presque un appel commun, d'ailleurs, vous allez voir.
Oui, voilà, c'est un petit peu un appel commun. Je recherche, pour les besoins d'un documentaire filmé, une famille qui aurait envie de rénover sa maison durant le premier semestre 2009 et de la rénover en fonction de certains critères environnementaux. Ça peut être on rénove la maison ou on l'agrandit avec intégration d'énergie renouvelable, de chauffage, de chauffe-eau solaire, isolation extérieure, intérieure, récupération des eaux de pluie, etc. bref, tout ce qui vous amuse, de partager avec les téléspectateurs. Je préviens que nous ne paierons aucun travaux. Nous ne sommes pas l'émission de déco de M6.
Non,
il faut juste avoir envie de le partager, nous raconter les embûches, les joies, les petits et gros malheurs d'un chantier de rénovation écologique.
Voilà, donc c'est noté. Et puis éventuellement, c'est pour la même chose, mais si vous n'avez pas envie d'être vu à la radio, on recherche nous aussi à peu près la même famille, voyez, mais pour la radio, pour voir effectivement l'évolution au fur et à mesure de vos travaux, les problèmes que vous rencontrez. Donc ça, on prend. Alors, tout ceci hein, sur le site de CO2 Mon Amour, moi, je transmettrai bien sûr à Laure Noilat. Tout à l'heure, dans mon papier d'introduction, cher Hervé Kempf, je parlais de la margerie, de la Lozère, n'est-ce pas? Donc, il y a peut-être aussi des bonnes nouvelles avec la neige qui tient, Hervé.
Beaucoup de neige. Et lundi, je vais prendre ma pelle pour débarrasser, tracer un chemin dans les 1 mètre, 1,50 mètre de neige qui s'est accumulé dans le village.
Très bien, voilà. Donc, ça existe encore. Juste Fabrice Nicolino, vous êtes rédacteur en chef de nouveaux cahiers qui s'appellent les Cahiers de Saint-Lambert. Ensemble face à la crise, c'est tout à fait intéressant, ça vient du groupe Bayard.
Oui, c'est destiné en partie, mais en bonne partie à l'univers chrétien et catholique. C'est une revue vraiment d'action contre la crise écologique. On espère mobiliser le monde chrétien qui a été assez immobile pendant longtemps, enfin à mon avis en tout cas. On peut retrouver cette revue sur le net, hein, c'est www.lescahiers au pluriel et en un seul mot.fr.
Merci à vous, alors merci à tous. Merci à vous Cécile Gladel, vous êtes encore là un tout petit peu?
Oui, je suis tout à fait là, et merci à vous aussi, et joyeux Noël à la France.
Voilà, et puis votre journée commence donc au Québec, merci d'avoir été avec nous en direct, et puis bien sûr, on vous retrouvera pour d'autres informations. Made in Québec, l'émission qui empêche de polluer, de réchauffer en rond bien se termine. Merci à Éric Morin, Jean-Noël Vélan à la technique, merci à Sophie Ledoré, à Jean-Christophe Pinaza, à Fanny Boyon qui a réalisé cette émission. Alors des sites avec Anne Gouzon qui a nourri donc les sites de CO2 Mon Amour, notre cyberdocumentaliste. Possibilité pour vous de réécouter cette émission pendant 4 semaines, de l'enregistrer, de la podcaster pendant 1 semaine. Elle sera rediffusée donc cette nuit dans l'émission nocturne de Brigitte Palchine, ce sera à 4h du matin. La semaine prochaine, on retrouvera Jean-Marie Pell, mais vous verrez, il sera un peu astronome dans le ciel d'hiver. Je vous retrouverai aussi avec Jean-Louis Fournier, donc ce formidable écrivain, nous serons dans le Pas-de-Calais, avec Jean-Pierre Coff, plein de choses assez pétillantes. Et puis surtout, vous restez à l'écoute parce que l'excellente émission de Fabienne Chauvière va commencer, Les Saventuriers, avec Bénédicte Ménez, qui est chercheuse à l'Institut Physique du Globe de Paris, qui est une spécialiste de la vie intraterrestre. Donc on va découvrir la population incroyable de bactéries qui colonisent les roches, parfois à des milliers de mètres de profondeur. Donc Fabienne Chauvière, Bénédicte Ménez, dans quelques instants. Et puis Denis Chessou, je vous retrouverai demain, l'Atelier du Mont-Petit-Loup, à 19h55, après les petits bateaux. Il est 15h.